Et c'est la fin de ce bulletin d'information.
Le monde au féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes. Pénurie de 900 000 sages-femmes dans le monde, soit un tiers de l'effectif requis selon l'ONU, qui réclame que cette profession soit mieux considérée et déclarée prioritaire. Plus de 4 millions de vies pourraient être sauvées, alerte le document réalisé avec la Confédération internationale des sages-femmes. Les femmes représentent 93% des sages-femmes et 89% des infirmières. Par ailleurs, l'ONU réclame que les gouvernements prennent des mesures concrètes pour inclure les sages-femmes dans la détermination des politiques de santé reproductive. Aux États-Unis, le nombre de naissances a encore baissé en 2020. Quelque 3,6 millions de naissances ont été enregistrées, soit 4% de moins qu'en 2019. C'est la cinquième année consécutive que le nombre de naissances décline, indique le Centre national des statistiques de santé, notant qu'il s'agit du plus bas depuis 1979, alors que le pays compte 107 millions de personnes de plus qu'il y a 42 ans. Le taux de fécondité en 2020 est ainsi le plus bas jamais enregistré, avec 1,6 enfants par femme. Depuis 1971, les États-Unis sont en dessous du taux nécessaire de renouvellement d'une génération, qui est de 2,1 enfants par femme. Trois femmes journalistes sur quatre sont victimes de violences en ligne, selon une étude de l'UNESCO. Ce type de violence varie entre des attaques à grande échelle ou des menaces extrêmes à un moment donné et des agressions constantes d'un niveau inférieur sur les réseaux sociaux. L'enquête menée dans 125 pays comprend notamment l'analyse de 2,5 millions de messages Facebook et Twitter visant les journalistes d'investigation britanniques et philippines Carole Cadwallard et Maria Ressa. Ces attaques sont généralement sexistes et axées sur le physique plutôt que le contenu de leur travail. 20% des femmes journalistes subissent des agressions, injures et harcèlement hors ligne. Ce taux est de 53% pour les femmes journalistes arabes, indique l'UNESCO.
Parole de femme.
En Guinée, un groupe de femmes qui se font appeler femmes rondes se sont organisées en association pour, disent-elles, assumer leur physique. Victimes de moqueries, elles sont bel et bien décidées à se faire respecter et accepter dans la société et incitent d'autres femmes comme elles à s'assumer. Notre correspondant Zakaria Camara a rencontré des membres de l'association à Conakry.
Les hommes qui voient les femmes comme un fantôme, surtout les femmes rondes, nous ne sommes pas des fantômes, nous sommes des humains et pleins d'amour. Donc c'est pour vous dire que quand vous voulez, vous pourrez, comme on l'a toujours dit. Venez vers nous, vous n'allez pas regretter.
Cet appel en dit long sur les regards, les moqueries, les railleries dont sont victimes certaines femmes grosses en Guinée. Ce cri du cœur, Oumousso espère qu'il sera entendu par les hommes qui ont une répugnance pour elles. Avec ses 110 kilos à 30 ans, cette jeune infirmière affiche un caractère envieux.
quand elle me voit, elle dit malgré qu'elle est grosse, mais elle sait s'habiller. Et quand elle s'habille, et l'habillement la va très bien. Donc pourquoi pas nous? Donc elles viennent pour me demander, la grande, s'il te plaît, montre-nous des boutiques où on peut trouver des habillements pour les femmes rondes. Donc souvent je les envoie, on fait les achats, elles portent, elles s'habillent et puis elles s'assument.
S'assumer, pas toujours facile quand on est grosse. Galiratou Camara, 22 ans, 99 kilos, se voit souvent tourner en dérision dans certains endroits de la capitale.
Quand on me dit par exemple « Lika, tu es Bouloubou », moi je dis « Tu es Rosimbe ». J'assume. Tout le temps, je rencontre ce genre de choses quand je prends les taxis, quand je prends les motos. Souvent, je suis concentrée sur quelque chose. Après, on dit « Hey, motard, foyez bara minera pinora ». C'est que ça fait mal parce que je suis humain, malgré que je m'assume tout. Mais il y a des endroits quand on te dit ça te fait trop mal. Mais je fais en sorte de mettre ça derrière moi et de surpasser cela.
Victime une fois, victime plusieurs fois, suffisant pour prendre conscience de ses droits et enfin s'organiser en association.
Je me nomme Yelihatou Camara, présidente de la structure Guinéron 224 ans. Nous avons créé cette structure pour nous donner plus de valeur. Nous voulons pousser d'autres femmes qui n'arrivent pas à accepter leur poids, à s'accepter, à se prendre en charge.
L'ONG Guinéron entend faire de la femme ronde la Guinéenne qui va taper dans l'œil des hommes. Elle projette une campagne de sensibilisation et l'organisation d'un concours de beauté dénommé Miss Ronde. Zakaria Camara pour VO Afrique, Conakry.
Direction le Mali, à la rencontre des femmes de l'association Faïda, un groupe de 45 tisseuses qui se battent au quotidien pour transformer avec de modestes moyens le coton du Mali. Le pays qui est deuxième producteur sur le continent a produit en 2020 700 000 tonnes de coton graines dont la quasi-totalité est transformée à l'extérieur. Un reportage de Lamissa Sangaré et Bagasikoura à Kati.
Un atelier en plein air ici à Kati dans la banlieue de Bamako. Presque chaque jour, des dizaines de femmes se retrouvent pour le tissage du coton.
Depuis 2015 à nos jours, nous faisons ce tissage de coton.
Guénéba Traoré, âgée de 50 ans, a fondé l'association Faïda il y a 6 ans.
Personne n'a abandonné depuis l'existence du groupe. Chaque jour, chacune fait la cuisine pour son mari avant de venir faire ce travail.
Mon travail, c'est de brosser le coton. Quand le coton arrive, on les graine. Et c'est nous qui le brossons et le passons à celles qui font le filage.
C'est dans cet atelier contigu en métal que Djenéba Traoré fait le tissage.
Si on en avait plusieurs, on allait produire davantage. Notre souhait, c'est d'en faire un centre. Il y a des jeunes filles qui ne vont pas à l'école. Je voudrais les réunir toutes ici pour qu'on fasse ce travail. Si ce métier peut être enseigné dans les écoles, ce serait bien. Ces tissus peuvent servir à faire des uniformes scolaires. Tu peux en faire de toutes sortes.
Le métier à tisser permet de produire 10 à 15 mètres d'étoffe par jour. La conviction de ces femmes est faite. Filer et tisser du coton est la voie à suivre. Et elles souhaitent un jour avoir plus de moyens et aussi trouver de meilleurs débouchés.
Australie, plus d'immunité pour les parlementaires concernant le harcèlement sexuel. Le Premier ministre Scott Morrison a indiqué que son gouvernement réviserait la législation sur la discrimination sexuelle afin que les parlementaires, magistrats et fonctionnaires soient tenus responsables du harcèlement de leurs collègues sur leur lieu de travail. La décision fait suite au rapport Respect at Work et intervient après des affaires retentissantes impliquant deux ministres qui ont fragilisé l'exécutif. Le harcèlement sexuel au travail relèvera désormais de la faute grave et sera un motif valable de licenciement. Le gouvernement prévoit d'étendre la période pendant laquelle une victime peut signaler un incident de 6 mois à 2 ans.
Si jeunesse pouvait.
Au Cameroun, les enfants sont de plus en plus exposés à diverses formes de dangers, selon la Commission nationale de protection de l'enfance, qui pointe du doigt des fléaux comme la drogue, la traite humaine, les abus sexuels et certaines pratiques mystico-religieuses. Un reportage d'Emmanuel Juntap à Yaoundé.
Un groupe d'élèves d'un établissement scolaire de Kribi, une cité balnéaire au sud du Cameroun, a récemment défrayé la chronique avec une affaire de porte-monnaie magique. Ces enfants, une fois interpellés, ont confié aux gendarmes qu'ils ont reçu 1 million de francs CFA de leur gourou chaque fois qu'ils parvenaient à introduire l'un de leurs camarades de classe dans le réseau du porte-monnaie magique. Cette affaire est loin d'être un cas isolé qui met en danger l'enfance au Cameroun.
On a plusieurs formes de traite, notamment l'exploitation sexuelle.
Lydie et Sissima a participé à l'étude sur la situation de la traite des personnes et le trafic illicite des migrants au Cameroun. L'étude révèle que les enfants sont comptés parmi les victimes.
Quand vous êtes au niveau de plusieurs carrefours, vous voyez des petits enfants qui sont forcés de mendier. Ça fait partie des éléments de traite. Le Cameroun est un État qui a ratifié toutes les conventions internationales en matière de protection des droits humains, notamment la protection des femmes et des enfants.
D'autres fléaux, comme la consommation de drogue, impliquent des enfants scolarisés ou non. Le ministère de la Santé publique indique que 20% des consommateurs de drogue ont entre 17 et 20 ans. L'une d'elles, le tramadol, est la plus répandue au Cameroun. Titus Ndjukun, coordinateur de Empower Cameroun, une association d'auto-support d'usagers de drogue.
On a le nord, l'extrême nord, on est en contact avec le Nigeria. Par là, ça entre. Et on sait même que dans le nord, la Damawa, la Garoua, tout ça sont des endroits où il y a aussi beaucoup d'usage de ce tramadol-là. Ça passe par nos frontières à cause de la corruption.
L'exposition croissante des enfants à diverses formes de dangers a amené les pouvoirs publics à mettre sur pied depuis 2016 une plateforme nationale de protection de l'enfant. Jean-Pierre Edouard, directeur de la protection sociale de l'enfance au ministère des Affaires sociales.
Cette plateforme a été créée pour avoir la possibilité en temps réel de se pencher sur les problèmes qui concernent les enfants, y compris ceux qui sont dans des situations d'urgence.
D'autres experts préconisent dans la situation actuelle l'application du dispositif répressif en vigueur au Cameroun. Un avis que partage Diane Chomalonier, avocate des droits des femmes, enfants et personnes handicapées.
Ces parents-là qui se donnent la liberté de permettre que les enfants soient sur la voie publique en train de vendre, qui utilisent les enfants dans ce sens-là. Ce sont des infractions. C'est le ministère public qui, au premier chef, devrait se saisir de pareils cas. Et même les institutions censées protéger l'enfant, afin que ces personnes qui exposent les enfants à toute forme de danger soient sévèrement punies.
Le gouvernement, pour sa part, dit réfléchir sur l'adoption d'une stratégie nationale de prévention et de lutte contre les fléaux scolaires et extrascolaires au Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi à travers le regard des femmes et des jeunes.
On fait une escale au Burkina Faso où s'est tenue la 8e édition Koudougou Doc, l'un des grands festivals de films documentaires de la sous-région. Cette année, une trentaine d'œuvres d'Afrique et du monde entier ont été projetées. Lamine Traoré a tendu son micro à des étudiants et des intervenants à Koudougou lors de l'événement.
En 2005, la multinationale achète du gasoil mexicain de mauvaise qualité. Dans le jargon du pétrole, on appelle ça du coquer nafta.
Ici à la cité universitaire, deux documentaires sont au programme pour ce soir. Des étudiants sont là. Ils suivent avec attention les deux films, dont l'un sur une catastrophe environnementale.
Une atteinte grave a été portée contre la santé des Ivoiriens.
Nous sommes à Kudugu Dock. Dioda Diande est une étudiante.
Ça m'a suscité beaucoup d'émotions. Je suis en même temps indien parce que j'ai suivi. On voit une image de l'Afrique vraiment ternie. Et ça me rappelle vraiment la question que Joseph Kizerbo y a posée et que jusque-là, on n'a pas trouvé la réponse. À quand l'Afrique?
Inoussa Kirakoya, aussi étudiant.
Au-delà du documentaire qui est là, on permet à chacun de donner son point de vue. On permet à chacun de s'interroger et de s'orienter encore en tant que jeune Africain.
Aux côtés des étudiants, des autorités du pays suivent ces films.
C'est l'aspect éduquer notre jeunesse quant à sa responsabilité sur le devenir de notre société.
Aziz Bamogo est le vice-président du CSC, le Conseil supérieur de la communication.
Nous, quand on était étudiants, et un peu eux d'ailleurs aussi, on aime beaucoup critiquer l'ancien colon, critiquer les gouvernants, critiquer ceci, critiquer cela. Mais la vérité, c'est que c'est nous qui critiquons là, qui venons au pouvoir et qui gérons le pays.
Michel Zongo est le directeur artistique de Kudugu Dock.
Notre principale vraiment ligne, c'est de comment on reconstruit l'imaginaire des Africains. Parce que le documentaire, c'est le cinéma du réel. C'est très sensible de montrer le réel. Alors, pendant longtemps, l'Afrique, le réel de l'Afrique a été montré par un œil extérieur. Nous voulons corriger ça. Nous faisons du cinéma réel en Afrique. Les Africains sont les premiers prioritaires à voir ce cinéma. Et bien sûr, et ramener d'autres cinémas, d'autres contrées en ici.
À Kudugu Dock 2021, 30 films étaient sélectionnés, dont 11 longs métrages, 11 courts métrages et 8 films d'animation. Durant 5 jours, en plus des projections débats, il y avait aussi des résidences d'écriture sous la direction du célèbre documentariste camerounais Jean-Marie Thénault. Il y avait aussi des masterclass, une rue marchande et des concerts. Malgré le contexte sanitaire, des professionnels du cinéma du Mali, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, des Comores et bien sûr du Burkina Faso ont préparé cette 8e édition de Kudugu Dock. Les organisateurs se penchent déjà sur la prochaine édition, prévue en 2022. Lamine Traoré, Kudugu, VOA Afrique.
Terre vis-à-vis des soldats noirs. Elle se confirme lorsqu'il est en contact avec d'autres forces, notamment avec les tirailleurs marocains, algériens et sénégalais.
Au Maroc, les féministes condamnent un arrêt de la Cour de cassation invalidant la reconnaissance de la filiation d'une fille née hors mariage. Après un jugement du tribunal de première instance de Tanger en 2017, qui avait reconnu à un homme la paternité de l'enfant sur la base de tests ADN. Le jugement avait été invalidé en appel la même année, avant que la mère ne saisisse la Cour de cassation qui l'a déboutée en septembre dernier, selon l'arrêt publié par Média 24. Le père avait été condamné en première instance à verser à la mère une indemnité de 100 000 dirhams. La reconnaissance de paternité ne donnait toutefois pas à l'enfant accès aux droits liés à la filiation tels que l'héritage. Faisant fi du test ADN, la Cour de cassation s'est basée sur un article du Code de la famille disposant que la filiation illégitime ne produit aucun des effets de la filiation légitime vis-à-vis du père.
Les jeunes ou les femmes, croyez en vos rêves, rien n'est impossible, ça va se réaliser. Et inspirons-nous, créons notre histoire, l'Afrique que nous voulons voir demain.
Au Au Tchad, de nombreux parents dans les zones reculées ne comprennent pas toujours l'importance de l'acte de naissance de leur progéniture. C'est notamment le cas à Mongo, dans la province du Guéra, où beaucoup d'enfants n'ont pas été enregistrés à la naissance. Une situation qui préoccupe l'UNICEF, soutenant le gouvernement dans la sensibilisation de la population sur ce document de base essentiel. Notre correspondant André Kodmadjingar s'est rendu dans la province du Guéra.
L'enregistrement de naissance dans la province du Guéra pose un sérieux problème par manque de sensibilisation. Les parents ont la tête ailleurs que de déclarer la naissance de leur enfant dans un délai requis, comme en témoigne Mahamat Adelil, père de 17 enfants, dont 3 seulement ont été enregistrés à l'état civil.
On ne l'a pas fait par négligence et parfois par faute de moyens. Parce que sortir un acte de naissance, il faut payer 2000 francs. Parfois, là, ils ont aussi leur certificat de naissance là, qu'on délivre à l'hôpital. Là. Mais au lieu de les faire valider, nous, on les garde en tant que tel.
Pour amener la population à comprendre la nécessité de délivrer un acte de naissance à sa progéniture, le gouvernement et ses partenaires, notamment l'UNICEF dans son financement multisectoriel pour le bien-être de la population, ainsi que les organisations de la société civile, misent sur la sensibilisation. Des équipes sont passées dans les églises, mosquées et lieux publics pour parler de l'importance de l'acte de naissance aux parents. Une sensibilisation qui semble trouver un écho favorable.
Maintenant, on a su que l'acte de naissance, ça se donne gratuit. C'est pour cette raison-là que nous étions mobilisés et nos derniers enfants qui sont devant vous, là, ils ont leur acte de naissance. Les grands qui ont atteint un certain âge, ils en ont. Les petits également, ils en ont. Mais ceux qui sont au milieu, là, ils n'en ont pas.
C'est aussi le cas d'Abdrahim Abdoulaye, père de 8 enfants, dont 3 ont eu leur acte de naissance grâce à cette sensibilisation.
Le premier enfant, c'est le chef des Carréliens qui est venu. Il a pris les données. Après, il est parti à la mairie pour nous chercher l'acte de naissance. Le deuxième, c'est que mon enfant m'a accouché. Je suis parti pour lui donner les renseignements. Et puis, il nous a amené l'acte de naissance. Et puis, le troisième, c'est moi qui est allé vers lui donc contenir l'évolution et puis l'importance même de l'acte de naissance. Sens qu'on nous a fait savoir. Puisque l'acte de naissance, là, c'est là qui permet d'avoir la nationalité.
Pour Mme Nekarnoudi Diomban, Myriam, déléguée de l'action sociale de la province du Guéra, avec l'implication de l'UNICEF, la tendance est en train d'être renversée dans sa zone de responsabilité.
En 2015, on était à 7,8% de naissance dans la province du Guéra. Et depuis que notre partenaire UNICEF est en train d'appuyer la délégation provinciale de l'action sociale via les comités de protection, qui sont les mécanismes de protection communautaire de l'enfant, il y a eu des progrès assez remarquables. Maintenant, nous sommes à 38% d'enregistrement de naissance par rapport à l'année 2015.
L'enregistrement de l'enfant constitue un premier droit fondamental pour ce dernier, estime Mme Nekarnoudi Diomban Myriam. À ce titre, elle invite tous les parents à enregistrer gratuitement leur progéniture dans un délai requis que de débourser beaucoup d'argent pour établir le même acte en dehors du délai accordé. André Kodumadingar, au pied de la reine du Guéra, pour VOA Afrique.
Féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête!